Bonjour, bienvenue sur Underscore, toujours sur Radio Méga. Il faut que je m'active autour d'un thème animé et pour ce faire, quoi de plus idéal qu'un ami frité pour vous la faire découvrir. Je vous en ai assez dit, à vous de deviner la suite.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Cécile. Cette émission est réalisée avec du personnel non gréviste. Non, je plaisante. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, pour tout vous dire, on enregistre... cette semaine, et en fait, on prépare aussi l'alchimie qui se déroule ce week-end.
Et oui.
Donc, c'est compliqué.
Et si vous écoutez cette émission en direct et que vous êtes à l'alchimie, on vous salue bien.
Coucou!
Même aussi à ceux qui sont dans leur jacuzzi. Bref.
Voilà. Hein? Tout ça? T'en connais des gens?
Oui, j'en connais.
Ah là là.
Eh bien, nous allons effectivement. Lisa nous a proposé quelque chose de très animé. Et
ouais.
Elle voulait pas nous en dire plus, mais à mon avis.
Ah, ce serait une surprise alors.
À mon avis, entre l'animation et le son, il n'y a qu'un pas. Et Maître Bell vous propose un sujet aux petits oignons, comme d'habitude. Mais avant, nous allons passer à l'actu.
Alors...
L'April appelle à soutenir la Fondation Gnome dans son action contre les trolls des brevets. La Fondation Gnome, attaquée par un parent troll...
Un patent troll,
a décidé de répliquer en justice pour se défendre et défendre les communautés du logiciel libre contre les abus du système de brevets. L'April soutient la Fondation dans sa démarche et appelle à faire des dons au fonds de la défense de Gnome contre les trolls des brevets. Pour contribuer au fonds de la défense, vous avez juste à suivre un lien sur le patent troll.
Voilà, on vous mettra tous les liens, bien sûr, sur triplemap.fr, comme d'habitude. La CNIL déclare illégale les expérimentations de reconnaissance faciale à Nice et Marseille. La CNIL vient en effet de rendre un avis déclarant que le système de reconnaissance faciale dans deux lycées de la région sud ne saurait être légalement mis en œuvre. Ça reste un avis, malheureusement.
Les codes sources de logiciels du secteur public publiés, les plateformes code.etalab.gouv.fr référencent et donnent accès à la liste des codes sources publiés par des organismes publics français. Elle incite les administrations à signaler leurs codes sources si ceux-ci ne figurent pas dans la base de données.
Yahoo Group va disparaître et ses archives avec lui. Certaines personnes ont découvert ça par hasard, car bien sûr ça n'a pas été annoncé, et les archives seront supprimées le 14 décembre. Certains tentent d'en faire des copies, mais il n'est pas sûr qu'ils y arrivent à temps.
La FSFE veut lutter contre les routeurs imposés par les FAI. En Europe, la plupart des fournisseurs d'accès imposent leurs propres routeurs pour se connecter à leur réseau, alors que théoriquement, on devrait pouvoir se passer de leur box et utiliser n'importe quel modem ADSL. La FSFE souhaite donc faire respecter ce droit et propose des ressources pour informer les gens et nos élus.
Framasoft sort une version bêta de Mobilizon avec un site de test. Le but est de pouvoir tester des fonctionnalités à grande échelle, mais les données sont écrasées toutes les 48 heures. Hein, t'arrives pas à lire. Bon, je prends la suite. La dernière mage de macOS supprime le support des applications 32 bits. Donc vérifiez si vous en utilisez encore avant de passer à Catalina.
Sondage de la Commission européenne auprès des développeurs de logiciels libres. L'April rappelle que dans le cadre du projet EUFOSA, European Union Free on Open Source Auditing, la Commission européenne a lancé un sondage le 5 septembre 2019, ouvert jusqu'au 30 novembre 2019. Ah oui, on peut encore.
Ouais.
Pour comprendre les besoins des développeurs et développeuses de logiciels libres et de leur communauté.
C'est tout pour les news. Une petite pause ?
Une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour sur l'animation avec le son. Non, c'est presque ça.
Thank you.
Wow, c'était Jazz for OVR, Run for Your Life. Donc c'était une bonne chiptune qui a été composée sur un Atari 1040 FTF.
Ouais, donc sur la puce Yamaha 3 voix. C'est génial ça.
Ouais, c'était bien ça.
Cool.
Une bonne chiptune comme on aime
ouais.
Bien.
Bon, on va continuer dans la musique, hein.
Mais oui, parce qu'il était une fois du son sur l'image animée.
Hey.
C'est un sujet qui vous est proposé par notre ami Medbel, qu'on salue.
Coucou Medbel. C'est moi qui commence, allez. Donc en 1927, The Jazz Singer est la première image parlante. On va passer un petit extrait.
$10. Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute to chute. Oh. And you know, in the dark mill?
Yeah.
Ever been in the dark mill?
Oh, no,
well, with me, it's all right. I'll kiss you and hug you and feel myself. Now, Mama, stop now. You're getting...
Alors, les studios d'animation ont vite compris les possibilités de synchroniser le son sur l'image. La même année, Walt Disney Studios a produit Steamboat Willie.
Hmm.
Ouais, comme ça coupe au début.
Déjà, je vois la petite souris se dandiner avec
c'est ça.
Sur le bateau.
Ouais. Donc Steamboat Willie qui a initié le monde à l'animation avec une bande son synchronisée. Le terme Mickey Mousing est rapidement devenu synonyme d'action et de son très chorégraphié à l'écran. Y a les deux effets sonores, les approches de Warner Bros. Et Disney. Dans les années 1920 et 1930, le matériel d'enregistrement était extrêmement volumineux et lourd.
Oh, j'imagine, ouais.
Rendant impossible toute sortie en dehors du studio. Incapables d'enregistrer des effets sonores dans le monde réel, les studios ont été forcés d'inventer de nouvelles approches pour créer du son pour leur contenu animé. Ainsi, deux approches différentes des effets sonores ont rapidement été développées. Dans une approche, les effets sonores ont été simulés par un musicien lors d'une session d'enregistrement de musique. Celle-ci était en grande partie jouée avec des instruments à percussion tels que timbales, cymbales ou cales en bois. La deuxième approche consistait à créer des machines à effets sonores complexes capables de reproduire les sons du monde extérieur dans les murs du studio. Avant de parler d'images, le batteur avait été employé par les salles de cinéma pour accompagner des films avec des effets sonores auxiliaires pour percussion. Lorsque les films d'animation ont commencé à inclure le son synchronisé, les studios ont engagé ces mêmes musiciens pour enregistrer leur talent à l'intérieur du studio. Les batteurs de fosse apporteraient avec eux un assortiment d'articles couramment utilisés dans le commerce, sifflets à glissière, harpe de juif, cornes de bulbe et tambours de frein, entre autres. Alors un petit extrait.
C'est vraiment très caractéristique, hein.
Ouais. C'est ça. Alors pour Warner Bros. Animation avec alors Carl Stalling et Tregewess Brown, je sais pas comment ça se dit. Donc en 1930, Warner Bros. Studio engagea le compositeur Carl Stalling et le monteur sonore crédité simplement éditeur Tregewess Brown pour collaborer à la série animée Looney Tunes. En 1933, ils continuent leur travail ensemble sur la série Merry Melodies.
Ça vous dit tous, hein ?
Ouais.
Attends, je m'installe sur mon canapé, là.
Carl Stalling a fait la renommée de Warner Bros. En tant que pionnier des effets sonores orchestraux loufoques, en marquant de belles choses telles que des violons pizzicato pour des personnages qui marchent sur la pointe des pieds.
Ah oui.
« ou alors des glissandos de trompettes pour des vocalisations d'éléphants. Ouais, c'est assez ressemblant, hein.
Tout à fait.
Pendant ce temps, Tregowes Brown a commencé à expérimenter l'utilisation de la vaste bibliothèque d'enregistrement de scènes de films d'action en direct de Warner Bros. Au sein d'un contenu animé. Il utilisait souvent des sons tels que le dérapage d'une voiture pour un personnage animé s'arrêtant brusquement, ou le son d'un biplan volant pour couvrir un personnage qui zoomait en arrière-plan. Cette utilisation hors contexte du monde réel sonne bientôt
bien par...
de Warner Bros. Bon, alors du coup,
c'est une caractéristique de la Warner Bros.
Mais c'est caractéristique effectivement de cette compagnie. En outre, au fur et à mesure que l'équipement d'enregistrement devenait plus compact, Brown commença à sortir un magnétophone du studio et à se rendre sur le terrain pour enregistrer les sons dans le monde réel. Il a ensuite transféré ces sons sur film et les a sauvegardés dans sa bibliothèque croissante d'effets sonores, ce qui lui a permis de créer un système lui permettant d'éditer encore et encore ses propres sons enregistrés dans des projets personnalisés. Cette méthodologie éditoriale était entièrement nouvelle pour l'animation, mais est rapidement devenue un élément clé du processus. J'ai encore le son de l'éléphant.
Oui, ça te trompe énormément.
Ça trompe, hein, ça m'a trompé. Alors, deux petits extraits.
The more offbeat they were, the funnier they were.
Funny everywhere.
Ouais, c'est extrait d'une vidéo avec le monsieur qui commente dessus. Et un autre extrait. Magnified. Donc là, on a une vraie sirène, en fait.
Ah oui.
Après, il y a Walt Disney Studio avec Jimmy McDonald. Le magicien des effets sonores, Jimmy McDonald, est présenté dans cet épisode de l'album de la famille Disney. Encore un extrait.
McDonald's wave machine was a look-alike cousin to the Rainmaker.
C'est pour faire les bruits de vagues, en fait. For surf when the goof was riding the surfboard so famously. Alors que l'animation elle-même évoluait et que les films devenaient de plus en plus vrais que nature, Walt Disney a engagé Jimmy McDonald en 1935 pour créer des machines à effets sonores personnalisées qu'il pouvait enregistrer en studio. McDonald a largement été pionnier dans la création d'engins à effets sonores tels que des machines à vent et à pluie, des moteurs à broc en verre et des ribbits à grenouilles cintrées reproduisant les sons naturels du monde de manière inattendue. Pendant son mandat à Disney, McDonald aurait créé plus de 28 000 effets sonores pour 139 longs métrages et 335 courts métrages. En 1941, Walt Disney Studios est devenu le premier à mettre en œuvre le traitement vocal avec le son du film Dumbo. Cela a été accompli avec le Sonyvox, un engin à deux cylindres d'apparence similaire à des boîtes de conserve qui étaient maintenues de chaque côté de la gorge de l'artiste. Le son enregistré avait une qualité tonale métallique, mais préservait également la performance de l'acteur, l'équivalent moderne de ce dispositif et le vocodeur. Anna Barbera, c'est Greg Watson et Pat Foley qui ont donné leur signature sonore. Soon Ideas Canada a compilé une liste des 10 meilleurs effets sonores de bandes dessins animées. Anna Barbera.
Un petit extrait.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr.
Eh bah oui. À la fin des années 50, l'animation télévisée s'épanouit en grande partie grâce à un style d'animation plus économique, basé sur le dialogue plutôt que sur l'action. Ainsi, l'animation télévisée s'éloignait du style comédie géniale inspiré de Charlie Chaplin, qui était auparavant populaire et se tournait davantage vers celui des séries et de comédies populaires en studio de l'époque. Anna Barbera était à la pointe de ce mouvement. Dans les années 1960, la série télévisée The Flintstones de Hanna-Barbera a commencé à utiliser une piste de rire qui a ensuite recréé le sentiment d'un auditoire de studio en direct, un aspect populaire des séries télévisées de comédie et de studio de cette époque. Et oui, les applaudissements et les rires enregistrés.
Enregistré, ouais.
Oh oui, c'était tellement énorme. Au cours des années 1960, Greg Watson de Hanna-Barbera a créé une bibliothèque de sons de bandes dessinées parallèle à la bibliothèque Warner Bros. De Tregowatt Brown.
Ah, c'est dur à dire, hein.
Ah oui, Watson a créé son après son sur Jetson, The Yogi Bear Show, The Flintstones. Pat Foley a poursuivi ce travail pour Hanna-Barbera au cours des années 1980. En raison de leur héritage commun, la bibliothèque de Hanna-Barbera reste la quintessence des effets sonores des bandes de dessinées classiques. Nouvelle technologie, meilleur son. À la mesure que la technologie progressait, le son de l'animation devenait de plus en plus réaliste. Dans les années 50, l'enregistrement optique a cédé le pas à l'enregistrement magnétique, entraînant moins de bruit par piste audio. Avec l'optique, pas plus de 8 pistes, le terme de couche audio peuvent être ajoutées à un film avant que le bruit ne devienne excessif. Avec l'enregistrement magnétique, ce nombre est passé à 200 pistes. Avec l'avènement de la station de travail audio numérique au début des années 90,
on en a déjà parlé.
Mais oui, le nombre de pistes sonores simultanées est devenu illimité. Ce changement technologique a ouvert la voie au changement du son de l'animation, passant du travail d'un seul homme qui enregistrait et montait le son au film à une tâche confiée à une équipe professionnelle du son dotée de responsabilités différentes. L'équipe sonore moderne. Les équipes sonores de l'animation d'aujourd'hui sont composées de plusieurs postes clés. Un monteur sonore, superviseur chargé de superviser l'ensemble du processus de création, des éditeurs ou des concepteurs d'effets sonores qui créent et synchronisent des effets sonores avec des images. Des éditeurs de dialogue qui ajustent la synchronisation et la qualité du dialogue enregistré, artistes de folie qui exécutent des pas et enregistrent des accessoires et des mixeurs de réenregistrement qui combinent tous ces éléments sonores avec l'ajout de musique. La conception sonore contemporaine, un mélange de méthodes. Bien que les équipes sonores modernes soient maintenant composées d'un certain nombre de personnes, son rôle créatif n'a pas diminué en importance créatrice. Bernd Burtt est un exemple clé de ce fait. En 2009, son travail sur le long-métrage d'animation Wall-E lui valut avec son équipe un Oscar pour le meilleur montage sonore. Son approche de la conception sonore s'appuie en grande partie sur sa connaissance étendue des projets passés de Tregowatt Brown et de Jimmy MacDonald. En accord avec le concept moderne de la conception sonore, Burt a utilisé une combinaison technique d'enregistrement traditionnel, d'engins sur mesure et d'éléments fabriqués et manipulés numériquement pour créer les sons de Wall-E. On va écouter un extrait sonore de Ben Burt. Wall-E. C'est vrai que c'est impressionnant.
Ouais.
Et puis un deuxième extrait.
Et ouais. Allez, ça c'est quand il bouge. And it's the sound we use for Wall-E when he has to be quiet in a given
scene. He's not going very fast. C'est juste génial. When Wall-E gets going at high speed, additional sounds are added to his driving motors. And one of the principal elements comes from a device called the inertia starter, used to start the engine on an old airplane.
Ouais, donc il rajoute des bruits en plus quand il doit aller plus vite.
Tout à fait. Alors ce qu'on entend en fait, c'est un appareil à manivelle ressemblant fortement à la sirène pour une alerte à la bombe, mais ici motorisé pour simuler une accélération de Wall-E. Donc, une grande contribution à l'art de l'animation. Au fil des ans, le rôle d'éditeur ou de concepteur sonore en matière d'animation a beaucoup évolué. De même, le percussionniste à l'ingénieur en mécanique, en passant par le numérique, l'objectif a toujours été le même, créer quelque chose de nouveau et d'intéressant qui renforce la connexion du public avec l'œuvre, qu'il s'agisse de la nature hésitante d'une pointe de pizzicato ou de la voix de robot obsolète de Wall-E. Les concepteurs sonores ont grandement contribué à l'art de l'animation au fil des ans.
Oui, merci Medbel.
Merci de nous avoir proposé ce sujet qu'on retrouvera bientôt sur notre podcast sur AAA.fr.
Et on passe à l'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Mais qu'est-ce qu'on a ? Ben oui, on est encore à l'alchimie.
Ouais !
Bon, normalement, voilà, si vous nous écoutez et que vous êtes à l'alchimie, on vous embrasse bien fort. Ouh ! Et n'hésitez pas à pousser des cris dans la salle pour dire que vous êtes content de nous écouter encore une fois.
Voilà, et puis sinon, ben, désolé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le CISO 2019 pour la troisième année consécutive. Grenoble INPS 6 heures accueillera la finale européenne du plus grand concours académique de cybersécurité au monde, le Cyber Security Awareness Week. CISO, en partenariat avec la New York University, NUI Abu Dhabi et l'Indian Institute of Technology.
Oh,
donc ça, c'est sur inscription, donc c'est ceux qui participent déjà. Mais c'est du 6 au 9 novembre à la César. Vous avez déjà fait un sujet d'ailleurs
oui,
là-dessus.
L'an dernier.
Voilà.
On va frotter la boule de cristal.
Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ?
Je frotte. Gamer, telle est la règle.
Sysadmin, mais c'est terragogène ce truc.
Macouné. Pour une mise à jour, il suffit de changer une machine.
Amigaïste, après Halloween, Amiga est devenu vampire.
Ouh.
Et, ah oui, alors musicien, c'était quoi le... ça y est, c'est moi qui l'ai écrite et je me rappelle plus l'air.
Vas-y.
Ah oui, c'est ça, parce que c'est une chanson de Mylène Farmer. Dis-moi vive, mais non, ne gîte plus jamais, non, l'amour, le lourd et Max. Dis-moi vive, mais non, ne gîte plus jamais, non, et plus mon guise sous X. Voilà, seuls les informaticiens pourront comprendre celle-ci. Voilà, et Cécile est éclatée.
J'ai le pouvoir de ne rien changer.
Eh ben on va rien changer, on fait comme d'habitude et on vous retrouve la semaine prochaine.
Et oui, la semaine prochaine parce qu'on a une nouvelle émission à vous préparer, bien sûr, hein, pour changer de sujet. Mais peut-être qu'on aura un reportage de l'alchimie.
Ah peut-être, si on n'est pas trop fatigué parce que...
Mais oui, mais on est dimanche matin, on est toutes en forme. Allez, à très bientôt.
À très bientôt.
Bye bye.